Un dimanche de campagne, l'émission qui vous permet de rattraper ce que vous avez éventuellement raté pendant la semaine, de faire le point sur les déclarations politiques du week-end et d'avoir un petit aperçu de ce qui vous attend les jours suivants. À 12 semaines exactement du premier tour de la présidentielle, on va voir si les choses ont bougé cette semaine. Pour cela, à mes côtés, une équipe de choc. Marcelo Westfred, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au Parisien. Sophie de Ravinel, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Journaliste au Figaro. Au programme jusqu'à 19h, les principales déclarations du week-end.
Je suis candidate à la présidence de la République.
La semaine politique de Cyril Lacarrière avec la question des parrainages que certains aimeraient réformer.
Il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match.
Il y aura également au like citoyen de Jean Massier, chroniqueur politique sur Twitch. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Vous nous raconterez l'actualité politique vue des réseaux sociaux. Ouais. Vous serez avec nous tout au long de cette émission, tout comme Simon Le Baron du service politique de France Inter. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
C'est vous qui avez préparé les fameux bobineaux qui nous rafraîchissent oui. La mémoire, ce qui ne fait jamais de mal. Ce soir, on reviendra sur les relations parfois houleuses entre les candidats et la presse.
Vous êtes toujours les hommes et les femmes les plus mal aimés de France.
En tout, 50 minutes d'actualité politique avec à la réalisation Stéphanie Texier, à la technique Julien Dumont et à la rédaction en chef Cyril Lacarrière.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Et on commence avec ce qui a fait l'actualité politique du week-end. Il y a pas mal de choses au programme avec tout d'abord évidemment le meeting du jour. C'était cet après-midi à Nantes, le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez entendu dans le journal de 18h, un meeting présenté comme immersif et olfactif avec des masques FFP2, ce qui n'est pas banal. Alors, avant de parler du fond, peut-être un mot de la forme, Jean Massier.
Bah, sur la forme,
il y a de l'innovation.
Oui, on retrouve le Jean-Luc Mélenchon innovant. Ils avaient déjà fait le coup en 2017 avec son hologramme. On s'en souvient tous, on en avait beaucoup parlé déjà à l'époque. C'était osé de sa part, c'était quelque chose de nouveau que personne n'avait vu. Et là, il a décidé de récidiver avec une autre manière de faire de l'innovation, cette immersion, cet écran à 360 degrés. L'expérience olfactive, alors j'étais pas sur place, j'ai pas pu sentir les bonnes odeurs.
Il paraît en effet qu'avec les masques, c'était pas évident.
C'était pas dingue. Bon, mais du coup, je pense qu'on retiendra beaucoup le côté olfactif du truc malgré tout, parce que ça a fait marrer tout le monde. Pour autant, ça reste quelque chose d'innovant et Jean-Luc Mélenchon nous remontre encore une fois une capacité à faire de l'innovation dans la manière de faire de la politique, en tout cas de faire des campagnes politiques. Vous savez, ça fait des décennies que tous les partis essayent de réinventer le meeting politique, on n'y arrive jamais. Un meeting, c'est toujours quelqu'un qui parle devant une foule qui applaudit, qu'on le veuille ou non, ça finit toujours comme ça. Jean-Luc Mélenchon, il a encore une fois montré qu'il était possible de faire quelque chose de différent. La seule question, c'est est-ce que ça attire un nouveau public à des meetings ? J'en suis pas persuadé.
En tout cas, ça fait parler.
Ça fait parler, oui, mais rien que ça, c'est déjà formidable pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour moi, c'est déjà une réussite.
Sophie de Ravinel, vous qui le suivez depuis un petit moment.
Oui, j'ai suivi depuis ses premières campagnes, depuis ses batailles avec le PCF pour savoir qui allait les représenter. C'était à l'époque en 2011, si je me souviens bien. Évidemment, il est créatif. Je dirais qu'il n'a jamais cessé de l'être. C'est pas qu'on retrouve un Jean-Luc Mélenchon qui est créatif, c'est qu'en fait, il n'a jamais cessé de l'être. Il l'est systématiquement. Après, je parle pas évidemment des idées politiques, je parle de la forme. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux de toutes les choses un peu nouvelles qu'on peut avoir en matière de communication politique. Il est assez rigolo parce qu'il est vraiment passionné de ça. Il avait évidemment, on le sait, été un des premiers sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Il a vraiment développé ça dans sa première campagne. Il avait été assez impressionnant d'ailleurs. Il avait marqué, y compris à droite. On avait reconnu, tout le monde avait reconnu vraiment sa pertinence sur ses compétences et celles de ses équipes, parce qu'évidemment, il n'est pas seul. Mais non seulement il a la curiosité, mais en plus, il fait confiance à ses équipes. Et là-dessus, c'est super intéressant de voir que cette fois-ci, ça a encore marché. Alors évidemment, l'olfactif avec le masque, vous l'avez très bien dit, c'était sans doute moyen. Mais même en visuel, je pense que tout le monde est pour un coût finalement assez réduit, puisque 300 000 euros pour un meeting de cette nature-là, c'est tout bénef pour un coût relativement normal pour un meeting.
Voilà, ça crée l'événement. Simon Le Baron.
Je crois qu'il avait lancé aussi 36-15 Tonton pour la réélection de François Mitterrand en 88 sur Minitel à l'époque.
Donc c'est très bon souvenir. Ouais,
il a toujours été.
Non, mais voilà, il a toujours été comme ça.
Féru de nouvelles technologies. Il y a un souci pour Jean-Luc Mélenchon avec ses innovations. Les hologrammes d'ailleurs reviendront début avril pour une nouvelle série de meetings simultanés. Il y a un souci de lier la forme au fond aussi, parce qu'il se veut moderne aussi sur son programme politique avec l'avènement d'une 6e République. Il est le seul à porter cette réforme des institutions à ce point-là, avec Arnaud Montebourg qui est proche, et on va sans doute en parler, de l'abandon dans cette campagne. Et donc, en donnant comme ça des meetings très modernes, il y a une façon aussi de montrer que la forme est en lien avec le fond.
Mais... Marcelo, vous avez été épaté ou pas, vous aussi ?
Oui, ben c'est vrai que 2017, il nous avait déjà surpris. En fait, les meetings sont moins faits pour convaincre les gens qui y vont, qui sont déjà par définition des convaincus, que pour envoyer un message aux autres via la télévision. Donc, ce qui était recherché, ce sont ces images de foule, 3 000 à 4 000 personnes, avec cette modernité, parce que là, il y avait moins des révélations ou des annonces sur le fond, thème programmatique, que la volonté d'être dans la mobilisation. D'ailleurs, il profite de ce meeting pour appeler les gens à venir, il dit même à pied ou en âne, etc.
À pied, à cheval, en voiture.
Voilà, lors de d'autres, de marches, par exemple, ou de futures mobilisations. 2017, il était à peu près à 10% en janvier, et il avait su grimper à la fin. Donc, ce qu'il veut, l'enjeu, c'est d'arriver à faire un sprint en étant moderne, en étant sexy, et en allant aussi sur des thématiques que les autres sur lesquelles les autres ne vont pas, hein, parce que la mer, l'espace, etc., c'est des choses qui peuvent paraître un peu modernes. Après, pardon, sur le reste, comme la vaccination qui concerne un peu tout le monde, il a un peu esquivé. Donc la modernité doit pas être non plus l'occasion d'esquiver les sujets de conversation de tout le monde.
Alors, on va revenir évidemment sur le fond, mais encore un mot de la forme, Jean Massier, sur l'impact que ça peut avoir via simplement Internet.
Bah, je peux vous dire que sur Internet, ça a bien marché en termes d'audience. Ces équipes se targuent d'avoir cumulé 35 000 personnes à l'extérieur de la pièce, si je puis dire, derrière leur écran qui regardait.
Est-ce que c'est vraiment beaucoup, ça, Jean-Marc?
Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment plutôt pas mal. Pour un meeting politique, même en campagne présidentielle...
Vous auriez d'autres chiffres, d'autres candidats?
D'autres candidats, aucun autre candidat n'arrive au quart du début de la cheville de ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon.
Oui, ça, d'accord. Évidemment,
en termes de milliers de personnes qui regardent, on n'a jamais dépassé 4 000, 5 000 personnes.
Mais par exemple, un meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, sur
le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte n'était pas streamé. Enfin, moi, j'étais un des seuls à le diffuser sur Twitch. On était 9 000.
D'accord.
C'est un exemple.
C'est pour avoir.
Mais donc voilà, donc Jean-Luc Mélenchon se targue de ces chiffres-là. Je suis incapable de vous dire combien de personnes à la télévision. J'ai pas l'information. Ce que je sais, c'est que ça donne le tempo, c'est que ça met aussi une ambiance sur Twitter. Ça requinque aussi ses militants, et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Jean-Luc Mélenchon aussi, à titre très personnel, fait un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est féru de nouvelles technologies. C'est pas juste quelqu'un qui fait confiance à ses équipes. Il aime à titre
perso.
C'est
son truc, quoi.
C'est son truc. Quand ses équipes m'ont témoigné que le soir dans son lit, il prend son ordinateur, regarde des vidéos sur YouTube. Ça l'amuse. Il veut découvrir. Alors il comprend pas tout. Ça reste un vieux monsieur. Il comprend pas tout.
70 ans.
Mais par contre, il est très curieux. Il a envie de comprendre. Il voit pas Internet comme quelque chose d'éloigné. On en parlera tout à l'heure avec Fabien Roussel. C'est une autre ambiance. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, il aime bien ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il a cette capacité à innover. C'est parce que, à titre personnel, il aime bien l'innovation.
Un vieux monsieur qui.
Simon Le Baron.
Qui a 600 000 abonnés. Jean Massier sur sa chaîne YouTube. C'est la chaîne francophone politique la plus suivie, je crois, sur YouTube.
Ouais.
En proportion, c'est vraiment
c'est le
même genre de question que Sophie Ravinel, c'est vraiment beaucoup.
En proportion, c'est loin devant, et c'est le fruit d'un travail énorme qu'il a fait avec ses équipes de construction d'une communauté. C'est pas simplement parce qu'il est célèbre. Il y en a d'autres qui sont extrêmement célèbres, qui n'ont pas le quart du début de son nombre d'abonnés. Jean-Luc Mélenchon, c'est des années de travail avec des formats de vidéos.
Il a commencé lors de sa première campagne, c'est vraiment ce que je vous disais.
Et donc il fait la revue de la semaine, qui est un de ses formats de vidéos YouTube qu'il fait chaque semaine, qu'il a continué à faire chaque semaine, y compris pendant les années où il n'était pas en campagne présidentielle. Et c'est ça qui paye. C'est comme ça qu'on arrive à 600 000 personnes.
Et pas seulement des vidéos, mais des textes très longs sur son blog. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a un public qui lit, pas seulement qui écoute. Et donc, il y a évidemment cette toujours remarque que c'est un public assez politisé, mais de fait, quand même, quelque chose d'assez fort là-dessus. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'effectivement, c'est aussi un produit d'appel pour lui, ce meeting, vous le disiez très bien, pour cette marche du 20 mars, qui sera finalement une sorte d'acmé de moment fort de sa campagne, qui est cette marche à laquelle il voudrait que tout le monde converge donc. Et c'est là où il fera le pari, parce que quand même, il est pas complètement là où il faudrait dans les sondages. Il est à 9-10%. Il lui faudrait être largement au-delà, même si effectivement, en fin de campagne, il espère pouvoir rameuter, comme d'ailleurs Marine Le Pen, d'une autre façon, les classes populaires qui commencent, disons, doucement à s'intéresser vraiment à la présidentielle. Et là, ça va marquer les esprits. S'il réussit ce pari du 20 mars, là, il y aura peut-être quelque chose qui se passera dans les urnes. Mais il sait que c'est quand même très difficile, parce que c'est une troisième campagne présidentielle et que c'est difficile de se renouveler.
Alors, on n'est pas encore là. Toujours est-il que cet après-midi, il a fait une mise au point très claire par rapport au reste de la gauche. Ça fait partie, évidemment, des débats du week-end. On l'écoute.
Alors, le désarmement spatial, oui, mais Madame Taubira, nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Et nous n'irons pas nous disputer avec eux, parce que nous ne sommes pas concernés par la compétition entre le parti radical de gauche de Madame Taubira et le parti socialiste de Madame Hidalgo. Quel est le sérieux de gens qui prétendent être une force gouvernementale et qui, 80 jours avant l'élection, n'ont aucune certitude, ni sur le candidat, ni sur le programme. Oh là 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 là.
Voilà qui est dit, Simon Le Baron.
Oui, mais il est très très cohérent là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Il a toujours dit que, d'une part, la gauche pour lui était un terme obsolète, parce que François Hollande a dévoyé, selon lui, ce qu'était la gauche et l'essence même de la gauche. Et puis, depuis qu'il y a des débats sur l'union, le rassemblement de la gauche, là, pour cette élection présidentielle, on se souvient que Yannick Jadot, au mois de juin, je crois, avait tenté de réunir toutes les forces de gauche. C'était dans un hôtel à Paris. Jean-Luc Mélenchon avait envoyé pour la forme des émissaires. C'était Éric Coquerel, le député effectivement de Seine-Saint-Denis, qui était allé. Mais il n'a jamais été intéressé par ce projet d'union de la gauche. Il a toujours dit, moi je trace ma route, nous avons notre programme L'Avenir en Commun depuis 2017. On n'a rien à faire là-dedans. Donc il y a une cohérence du début à la fin en ce qui le concerne là-dessus.
Et un calendrier, puisque lui il s'est présenté lors d'un JT sur TF1 en novembre. Donc il est parti très tôt officiellement et sa difficulté, c'est que, enfin son pari, il est double stratégiquement, c'est-à-dire qu'il doit arriver premier à gauche pour pouvoir bénéficier d'une sorte de vote utile. Mais la difficulté, c'est que l'ensemble de la gauche est tellement bas qu'il ne va peut-être pas pouvoir. L'autre fois, en 2017, il avait siphonné les votes de tous les déçus du hamonisme. Là, il se retourne sur la gauche. Il ironise, et à juste titre, en disant ils sont divisés. C'est vrai qu'à 89 jours...
Ils ne sont pas tout à fait prêts.
Et ils ne sont pas prêts, parce qu'à 89 jours du premier tour lancé, on en reparlera avec Christiane Taubira, cette offensive, c'est quand même... Les délais sont très courts. Mais pour lui, ça peut être un problème, parce que s'il est devant, il se retournera, il n'y aura peut-être personne derrière lui.
Alors vous avez bien fait de parler de Christiane Taubira, parce que c'est l'autre événement du week-end, c'est cette déclaration de candidature. Cette fois, c'est fait. C'était hier à Lyon, Christiane Taubira, déclaration de candidature faite en extérieur, visiblement frigorifiée.
Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ses exigences, je suis candidate à la présidence de la République.
Sur la forme, Jean Massier, qu'est-ce qu'on dit là ?
Moi, on dit pas grand-chose, c'est une déclaration de candidature, c'est tardif. C'est tout ce que je peux vous dire, on est le 16 janvier 2022. Et on est en train de commenter la déclaration de candidature d'une candidate à une primaire c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile de faire autrement que de faire sobre quand on déclare sa candidature. Alors, je dis ça, on a vu Éric Zemmour qui a fait une vidéo sur YouTube.
Oula.
Mais c'était, justement, elle ne lisait pas son discours.
C'était bien.
Elle partait, elle
mais
a fait quand même quelques envolées.
Mais c'était très sobre parce qu'on était sur les collines de la Croix-Rousse, les canuts, l'histoire sociale. Bon, il y avait des graffitis partout derrière, c'était un environnement urbain un peu rude, avec ce brouillard à couper au couteau, un froid paraît-il glacial. Donc bon, c'était particulier, et puis c'était dans sa doudoune, etc. On était loin, elle dit souvent en riant, moi je suis un oiseau des îles, là on la sentait pas complètement à l'aise. Mais de fait, elle a fait un discours sobre et un discours qui se voulait marquant. Mais pour l'instant, ça ne fait que rajouter quand même beaucoup de complications à gauche.
Surtout que c'est encore hypothétique, puisqu'on va en parler, ça dépendra résultat de cette primaire. Mais très sincèrement, elle y croit elle-même ? Est-ce qu'elle a un programme ? Est-ce qu'elle a des troupes ? Oui. Elle en est où,
elle y croit vraiment. Et d'ailleurs, c'est très frappant, parce que quand on l'entendait sur votre antenne, le 16 septembre dernier, disant, mais enfin, non, moi je ne vais pas y aller, je ne vais pas être dans l'éparpillement des candidatures, je peux avoir beaucoup de pression, mais je ne vais pas y aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors elle dit, bon ben voilà, il y a eu... évidemment, l'installation d'Éric Zemmour dans le paysage. Il y a eu cette dispersion à gauche, l'incapacité d'un rassemblement. On se demande ce qui a pu quand même la pousser vraiment à y aller. Alors évidemment, on sait qui sont ceux un peu autour d'elle, là, qui étaient des comités, Taubira, mais enfin quand même, ils ne sont pas aussi forts que ça puisse avoir une telle influence sur elle. Alors on se pose des questions.
C'est Zemmour qui a...
C'est ce qu'elle dit. C'est cette conviction qu'en fait, tout son parcours politique, qui remonte à très loin et qui est assez divers et varié, on pourra en parler, est quand même à une ligne conductrice qui est celle du rassemblement de la population française dans sa diversité contre ce discours de haine nationaliste.
Simon, le Baron.
Oui, alors est-ce qu'elle a un programme ? Est-ce qu'elle a des troupes ?
Oui.
Vous posiez la question claire.
Est-ce qu'elle
a un programme ? Oui, de plus en plus quand même. Il y a une ligne directrice, un projet qui se dessine, socialiste en effet. SMIC à 1400 euros, pour citer quelques mesures. Revenu étudiant 800 euros par mois pendant 5 ans. Recrutement de 100 000 soignants. D'ailleurs, sur ces mesures-là, les Insoumis disent, c'est bien, elle reprend des mesures de notre programme. Bon, ça c'est pour le le projet. Et puis pour les troupes, c'est vrai qu'il faut constater qu'il n'y a pas de ténor, il n'y a pas de grande figure autour d'elle, mais qu'il commence à y avoir des ralliements. Marie-Guide Dufay, présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a annoncé soutenir Christiane Taubira. Benoît Payan, le maire PS de Marseille, deuxième ville de France tout de même, qui dit « je soutiendrai le vainqueur de la primaire populaire ». Il y a assez peu de doutes sur le fait que ce sera Christiane Taubira.
Alors ça si je peux me permettre, je suis beaucoup moins sûre. Parce que finalement, les inscriptions quand même, effectivement, on pourrait dire que les organisateurs de cette primaire, Mathilde Himmer, Samuel Gibowski, ont peut-être, sait-on jamais, on peut le supposer, une certaine affection pour elle, même si Mathilde Himmer se dit candidate écologiste, donc, enfin pardon, militante écologiste.
Mmh. Elle a fait partie de la fameuse convention citoyenne sur le climat.
Absolument.
Elle s'est occupée de l'organisation
absolument,
de cet événement.
Absolument, ses origines militantes. Donc bon, mais on ne sait pas. Je pense que le scrutin est loin d'être fait, donc je serai prudente là-dessus. Mais de fait, Christiane Taubira, elle est portée par cette dynamique-là.
Et la question pour Anne Hidalgo, en répercussion, c'est savoir si Christiane Taubira, qui est quand même favorite de cette primaire populaire, dont certains disent qu'elle est faite pour elle depuis le début, si elle sort en tête de cette consultation citoyenne, est-ce que finalement ces premiers ralliements qu'on commence à voir aujourd'hui vont entraîner une fuite des figures socialistes d'Anne Hidalgo vers Christiane Taubira?
On va déjà laisser cette primaire populaire se faire. Un petit mot quand même, vous disiez une grande carrière politique Christiane Taubira, vous êtes tous d'accord ici? Rappelle quoi, la loi reconnaissant évidemment l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi sur le mariage pour tous, son bilan comme garde des Sceaux, Marcel Westfred.
Elle a 69 ans et elle a, alors vous citiez les derniers textes qui sont en fait les mesures les plus emblématiques du quinquennat Hollande, mais si on regarde dans la durée, elle est quand même partie dans son combat sur le combat indépendantiste en Guyane, puis elle a eu un moment...
Sur lequel elle est revenue.
Mais elle commence comme ça chronologiquement. Ensuite, elle vote quand même la confiance à Édouard Balladur. Elle est de l'aventure européenne avec Bernard Tapie. Elle est ensuite candidate avec le PRG en 2002. Elle fait presque 3% sur un programme d'ailleurs assez libéral. Et finalement, après avoir beaucoup hésité, etc., elle se retrouve maintenant à la tête avec des mesures qui sont qui vont puiser, en fait, chez les écolos, chez la France insoumise et chez les socialistes.
Oui, Jean Massier.
Je ne veux pas être désagréable avec Madame Taubira. Elle a très longtemps été un espèce de satellite de la grande famille de la gauche, une personne qui pesait notamment pour cette loi sur la reconnaissance du crime contre l'humanité. C'était quelque chose d'important, mais ça n'a jamais été une personnalité centrale dans l'appareil de gauche, dans les congrès, dans ces machins-là. Elle est devenue quelqu'un d'extrêmement important avec le mariage pour tous. Elle est devenue une égérie d'un mouvement, d'une gauche qui, depuis longtemps, n'avait pas ressenti le plaisir de la conquête d'un nouveau droit, quelque chose de nouveau, etc. Elle est devenue cette égérie-là, chose qu'elle n'a même pas particulièrement cherché à être d'ailleurs, mais elle l'est devenue et elle continue à surfer dessus. Et toute sa candidature aujourd'hui est le fruit de ça, de cette attente un peu absurde et quelque part un peu magique de la part de beaucoup de militants de gauche qui ne voient en elle que ça.
Voilà, alors on verra bien ce qui sortira de cette primaire populaire. Je voudrais qu'on évoque quand même, je vous presse un petit peu, une autre déclaration de ce week-end. C'est évidemment Marine Le Pen devant la pyramide du Louvre. Diffusion d'une vidéo dont on écoute un extrait.
C'est ici, il y a 5 ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. 5 ans après, la promesse de cette confiance qui oblige, de cette bienveillance exhibée, de cette réconciliation proclamée, de cette humilité affirmée, de ce respect pour chacun, se sont évanouies, tout comme l'engagement d'un monde plus sûr, de liberté défendue ou de perspective de croissance. Pour reprendre les termes du discours de M. Macron, ce soir du 7 mai 2017.
Simon Le Baron.
Alors, il y a l'évidence, c'est le fait qu'elle
le duel.
Veut installer à nouveau ce duel de 2017, elle contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas du tout vers son extrême droite, on va dire, son adversaire qui peut lui piquer des parts de marché. Éric Zemmour n'existe pas.
Son concurrent.
Je suis la seule à pouvoir concurrencer Emmanuel Macron. Ça, c'est clair. Sur la forme, elle choisit justement de se poser en opposition avec le ton général qu'on voit de cette campagne. Depuis quelques semaines, Éric Zemmour, qui a provoqué encore un tollé ces derniers jours... On va en parler. Sur les enfants handicapés, en disant qu'ils devaient être scolarisés dans des établissements spécialisés, qui multiplient polémique sur polémique. Emmanuel Macron lui-même, qui a choisi de cliver dans la forme, en disant « j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés ». Eh bien, elle... pas un mot plus haut que l'autre. Je vous invite à faire le choix de la raison, du cœur. Elle est une candidate consensuelle, qui veut éviter le buzz, la radicalité. Elle est sage, elle est sereine, elle a l'expérience. Voilà sa stratégie. Reste à savoir si ça va marcher, parce que j'ai l'expérience, je suis déjà passé par là, d'accord, mais en 2017, on a vu comment ça s'était terminé lors du débat de l'entre-deux-tours, complètement raté pour elle.
C'est moderne, Marcel Westrette, cette pyramide du Louvre, là
En tout cas, le clin d'œil, il est évidemment marqué. Mais alors, en termes de scénographie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a décidé de faire le chemin inverse de celui du tout nouveau candidat, tout nouveau président en mai 2017, parce que lui, il était parti, il avait marché lentement en direction de la pyramide, et là, elle fait le chemin inverse, tout ça avec un discours qui se veut optimiste, pour trancher avec le discours peut-être un peu décliniste d'un certain Éric Zemmour.
Alors, on verra ça, évidemment, pour la suite.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Il est 18h32, on revient maintenant sur ce qui a fait l'actualité de la semaine. Ça s'appelle la semaine politique de Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Claire. Et oui, je crois qu'il y avait un jingle, autant pour moi. Le vent souffle sur la campagne présidentielle. Et cette semaine, le vent nous a fait entendre les inquiétudes de certains candidats. La crainte de ne pas se retrouver sur la ligne de départ.
Eh bien, nous galérons. Je crois, comme beaucoup de candidats, nous galérons parce que le système est totalement grippé.
Système grippé et grosse galère, estime Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National n'est pas sûre d'obtenir les 500 signatures nécessaires pour être officiellement candidate à la présidentielle. Elle n'est pas la seule à être fébrile. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon craignent aussi de ne pas pouvoir être dans la course. Du coup, ces trois-là demandent à ce qu'on change les règles. Réponse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match.
À 83 jours du match même, évidemment, pas question de revoir le système, mais allez savoir pourquoi le sujet va soudainement disparaître des radars dès que l'élection sera passée et remettra le couvert dans 5 ans.
J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit.
Alors, pas de problème d'insomnie pour Valérie Pécresse, qui aura toutes ses signatures. Alors, il s'agit avant tout d'aider les autres. Invité de France Inter, mardi matin, Gérard Larcher encourageait les élus LR à parrainer le candidat de leur choix. D'ailleurs, s'ils le font, promis, il n'y aura pas de procès d'intention. D'ailleurs, pour montrer l'exemple, qu'est-ce qu'il a fait, lui ?
Moi, je parrainerai Valérie Pécresse.
Voilà. Et c'est dans ce contexte de chasse à la signature qu'un petit nouveau a fait son apparition mardi matin sur France 2.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées en démocratie ? Eh ben, on fonde un parti. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche et donc de me présenter à l'élection présidentielle.
Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, romancier et donc désormais prétendant à l'Élysée, un candidat qui veut parler simplification et libéralisme. Comme se le demandait un certain Géronte, que diable allait-il faire dans cette galère ?
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Le vent souffle sur cette campagne et il souffle fort du côté de la gauche, et pas franchement pour porter les candidats haut dans les sondages. Jeudi matin, Anne Hidalgo présentait son programme présidentiel. Jusqu'ici, on avait surtout retenu sa proposition de doubler le salaire des enseignants. Mesure, comment dire, plus vraiment là, mais toujours là. La candidate socialiste tentait de s'expliquer sur notre antenne face à Dominique Seux.
Dans mon livre, je dis que nous démarrons par la rémunération d'entrée de ces jeunes professeurs des écoles et sur une carrière et sur la grille indiciaire. Vous vous rendez compte que les professeurs des écoles dans notre pays démarrent à 1700 et quelques euros et terminent à peine 2500.
Ce qui était simple, voire simpliste, doubler le salaire des profs est devenu compliqué à coup de grilles indiciaires. Toujours est-il que de ce côté de l'échiquier politique, ce ne sont pas les propositions qui nourrissent les discussions, comme le titre est Libération jeudi, c'est le débat sur la primaire qui sature le temps de parole des candidats. Une pantalonnade qui forcément donne du grain à moudre à l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Ces appels à l'union, à l'unité, à la primaire sont pathétiques, ça ne débouche rien, sur rien. La gauche n'est plus utile pour le moment dans le sens où elle donne le sentiment non pas de concourir pour être présent au second tour, non pas pour gagner, mais pour savoir qui va être le premier de cette course qui ne mène à rien. Il y a une gauche qui ne veut plus gouverner.
Cette semaine toujours, sacré vent de face pour Jean-Michel Blanquer. Grève des profs jeudi et prise de bec avec Olivier Véran. Un clash, selon l'expression désormais consacrée.
Ça, c'est à moi que tu parles, là ? C'est à moi que tu parles comme ça, mec ?
Alors, y a-t-il un problème Blanquer ? Jean-Michel Blanquer doit-il changer de méthode ? Vendredi matin, Christophe Castaner, sur LCI, a tenté de déminer la situation, tout en reconnaissant quelques couacs.
Il y a une volonté d'écoute et il y a la mise en place d'un groupe de discussion, d'échange tous les 15 jours. Il y a certainement eu des loupés. Et le ministre l'entend, le ministre y répond. Personne ne prend des décisions aussi compliquées, complexes, de gaieté de cœur. Il y a peut-être un problème de communication.
Preuve que les vents sont mauvais pour Blanquer, vendredi, c'est la femme du président de la République elle-même qui était venue le défendre.
Je pense que c'est le Haut Conseil de Santé Publique ou c'est la Société Française de Pédiatrie qui émet des conseils. Ça n'est pas le fait d'un ministre, c'est le fait justement de scientifiques éclairés.
Enfin, le vent de cette campagne nous a rappelé qu'en 2022, de nombreuses femmes sont candidates à la présidence de la République, une de plus d'ailleurs depuis hier. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une femme à l'Élysée ? Réponse de Valérie Pécresse.
Je pense que sans doute, ça permettra d'avoir une attention plus particulière et plus singulière à la situation des femmes. Dans mon programme, vous retrouverez un certain nombre de mesures qui ne sont pas dans les autres programmes.
Alors, est-ce que la France de Valérie Pécresse ressemblera à la France de Mélanie Georgiades? Je vous cite celle qu'on appelait Diams. Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêves, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière pour cette semaine politique. Allez, un mot de Jean-Michel Blanquer peut-être pour commencer, parce que il l'a dit lui-même, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. N'empêche que celui qui était le chouchou a perdu quand même de son aura. Sérieusement, Marcel Westfred?
Oui, il tombe de haut. Si on regarde au début du quinquennat, c'était le bon élève. C'était, il y avait un hebdomadaire, Le Point, qu'il avait intitulé, baptisé le vice-président. Et il a été, c'est lui qui porte les mesures les plus emblématiques. Par exemple, le dédoublement des classes de CP dans certaines zones d'éducation. Bon. Et au fur et à mesure, il a, dans cette période, il a voulu faire un peu de la politique. Il a voulu, d'ailleurs, il cherche une circonscription. Enfin, il veut sortir du spécialiste de société civile qu'il était, l'ancien recteur d'académie.
Parce que c'est un ministre technique au départ.
Parce que c'est un ministre technique. Il n'empêche, rappelons quand même qu'il va faire 5 ans. Il va battre tous les records de la Ve République pour un ministre de l'Éducation nationale.
Et c'est notable. Hein.
Et ce qui se passe quand même, c'est qu'il est. Alors, il y a eu des erreurs incontestablement de communication. Après, il porte un peu le chapeau pour tout le monde dans la séquence de la semaine dernière sur la question des autotests dans les écoles. C'est un ministre maintenant qui rentre un peu dans le dur. Il sent bien que dans cette fin de quinquennat, il est moins le chouchou auprès des Macron qu'il n'a pu l'être. Je dis des Macron parce que Brigitte Macron a joué un rôle important, qu'il n'a pu être au début. Et donc, il cherche un petit peu à exister aussi en incarnant des idées. Il a par exemple créé un laboratoire de la République pour incarner des idées de laïcité. Donc on est passé du techno à celui qui s'est piqué au jeu et qui veut devenir un politique.
Sophie Dravinel.
Oui, je suis assez d'accord quand Marcelo Westfred dit qu'il porte un peu le chapeau tout de même, parce que effectivement dans cette séquence on lui a beaucoup reproché, par exemple médiatiquement, si on revient en termes de communication politique, d'avoir parlé aux Parisiens dans un article qui très vite, je crois,
ça c'était bien, mais
voilà, disons qui a été très vite mis à disposition, ouvert et pas seulement aux abonnés, mais enfin, tout était disponible quand même sur le site du ministère un quart d'heure avant la publication sur, donc Le Parisien. Et puis ensuite, on lui a reproché d'avoir fait des annonces comme ça par médias. Enfin, il n'est pas que le ministre des 850 000 profs, il est aussi le ministre des 24 millions de Français qui ont des enfants scolarisés. Et par ailleurs, le Premier ministre Castex a lui aussi parlé aux médias 2 jours après en réservant des déclarations aux médias et non pas aux responsables de l'éducation concernés. Donc, on voit bien qu'il porte le chapeau. Et effectivement, il est quand même assez aussi protégé par cette amitié avec Brigitte Macron qui remonte à loin, parce qu'elle remonte au début, enfin disons à la campagne présidentielle précédente, au cours de laquelle Brigitte Macron avait repéré Jean-Michel Blanquer, où elle avait du coup suscité des rendez-vous avec lui, elle avait lu ses livres, ils étaient devenus assez proches. Et effectivement, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un peu un isolement au sein de l'exécutif de Jean-Michel Blanquer. On en discute souvent avec des parlementaires, même avec des ministres qui disent, bon oui, c'est un petit peu sa coterie, le mot est dur, mais de fait, on parlait de laïcité tout à l'heure, c'est une ligne assez nette, assez claire et sur laquelle il est engagé.
Simon,
juste une petite observation, vous disiez c'est un ministre technique, c'est vrai parce qu'il n'a jamais été élu, mais c'est un vrai homme de droit qui a une longue expérience des cabinets ministériels sous Nicolas Sarkozy, qui était surnommé ministre de l'éducation bis de Nicolas Sarkozy quand il était directeur de l'enseignement scolaire, directeur général de l'enseignement scolaire à l'époque. Juste une petite remarque. Et pour dire aussi qu'il est dans une situation particulière et difficile pour lui en ce moment, Jean-Michel Blanquer. C'est ce qu'on nous explique en tout cas autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a fait 5 ans, c'est un record de longévité d'ailleurs, au ministère de l'éducation nationale.
Qu'est-ce qu'on peut faire
après Emmanuel Macron n'a pas intérêt, même s'il le souhaitait, à le reconduire. Ce serait en contradiction avec sa volonté de faire une campagne de rupture et pas seulement de continuité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après, Jean-Michel Blanquer ? Eh bien, il doit se positionner politiquement, justement, lui qui n'a jamais été élu. Il a choisi de le faire en partant dans une sorte de guerre contre voilà ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc. Ce qu'il conduit, disent certains autour d'Emmanuel Macron, à sortir de son ministère, à sortir de ses dossiers. Il est moins présent auprès des personnels de l'éducation sur le terrain, auprès des syndicats dans le dialogue. Il est moins au fait du fond des dossiers, ce qu'il conduit à faire des erreurs de communication. C'est cette atmosphère-là, cette ambiance-là de fin de règne pour lui qui est difficile à gérer en ce moment.
Alors je sais que vous avez tous envie qu'on continue sur Jean-Michel Blanquer, mais allez, on a entendu quand même aussi Anne Hidalgo qui veut augmenter les enseignants. Anne Hidalgo qui a mis les choses au point là, aujourd'hui, c'était sur BFM TV, par rapport à cette fameuse primaire populaire, parce qu'on continue à en parler.
Ce que l'on appelle la primaire populaire, en fait, c'est sans débat. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, pour moi, la page est tournée.
Voilà, la page est tournée. Sophie Dravinel, est-ce qu'elle va aller au bout ou pas, Anne Hidalgo? On se pose la question. Il y a des bisbilles au sein du Parti Socialiste. Est-ce que vraiment, elle est en capacité de continuer?
C'est très compliqué chez les socialistes en ce moment. On en viendrait presque à les plaindre et à plaindre Anne Hidalgo parce que, effectivement, c'est quand même très, très galère ce qu'ils vivent. Je pense qu'ils n'ont pas été habitués à vivre des espèces de tsunamis de cette nature-là. Il y a au sein du PS deux tendances, disons, majoritairement, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus, mais une qui dit il faut quand même tenir compte de cette primaire parce que cette primaire, elle va aller au bout. On saura demain matin, lundi, combien de nouveaux inscrits participeront donc, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 janvier. Et on me parle d'un chiffre de 200 000, ce qui est quand même assez important. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de pression. Et donc il y a une part au Parti Socialiste de cadres, et notamment autour d'Olivier Faure, qui disent on ne peut pas ne pas tenir compte de cette primaire. Et d'autres qui... pour des intérêts divergents, soit qu'ils ne veulent pas absolument de Christiane Taubira, soit qu'ils soutiennent absolument Anne Hidalgo ou qu'ils détestent Olivier Faure parce que tout est possible, eh bien, ils refusent cette primaire. Mais de fait, le nombre d'inscrits sera quand même quelque chose de significatif. Et je pense que moi, à titre personnel, Anne Hidalgo... plus elle s'enferme à dire qu'elle ira au bout, plus ça manifeste quand même une certaine fébrilité.
Il y a quelque chose qu'il faut rappeler quand même qui est important, c'est que l'appareil du Parti Socialiste n'a pas la main sur l'organisation de la primaire populaire. C'est un peu la difficulté d'ailleurs qu'ils ont.
De tout le monde.
Ils auraient bien voulu de personne, non? Mais c'est ça, c'est que la primaire populaire, et pour le coup, je connais bien leurs organisateurs, ils sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Il y a deux, trois trucs sur lesquels ils veulent pas bouger, ils veulent pas changer. Et le Parti Socialiste a bien essayé, hein, quand ils ont présenté, Anne Hidalgo, ils ont commencé à vouloir discuter de l'organisation concrète, de comment on va faire, etc. Le fait est qu'à partir du moment où la primaire est une primaire non consentante pour beaucoup des gens qui vont être amenés à être présentés cette primaire, c'est plus une primaire. Donc il n'y aura pas de débat, comme
c'est
d'ailleurs le déplore.
De
ça devient une investiture populaire. Et ça, ils l'avaient pensé déjà, les membres de la primaire populaire, dès le début, en disant, écoutez, nous on va faire un immense sondage, ça va être le peuple de gauche, plusieurs centaines de milliers de personnes, qui vont du coup dire qui ils préfèrent selon une méthode de classement. Donc Anne Hidalgo et le Parti Socialiste se retrouvent prisonniers d'un processus dont ils ne maîtrisent pas les
aléas, et les aboutissants.
À la grande différence de ce que les écolos ont réussi à maintenir, à tenir leur primaire, c'était leur primaire, les républicains ont tenu leur congrès, et ben là, les socialistes sont prisionniers d'un truc.
Voilà, il y a huit candidats. Il y a huit candidats pour l'instant.
Il y en a sept, si je peux me permettre, dont une à cette primaire. Hein.
Je disais huit candidats à gauche. Mais c'est parce que c'est pas les mêmes en plus.
C'est
compliqué.
Et puis il y en a dont on n'a absolument jamais entendu parler, même si dans les milieux militants, on les connaît, comme Anna Aguette-Portery, qui est une béarnaise. Donc moi, comme je suis moitié béarnaise, je trouve ça génial. Mais les Français, je suis sûre, pas certaine qu'ils la connaissent.
Voilà, alors, je voudrais quand même qu'on dise un mot. Allez, si vous me promettez d'être court, qu'on parle un mot des parrainages, parce qu'il y a aussi ceux qui veulent y aller et qui ne sont pas sûrs d'avoir leur signature, système à réformer ou pas, Jean-Marc?
Oui, c'est un vrai problème, les parrainages, et je vais faire très court, promis. Les parrainages, ça a du sens parce qu'on se dit que ce sont les maires. En fait, on sous-traite collectivement aux maires la responsabilité de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. L'écrasante majorité sont des maires, il n'y a pas que des maires, vous avez raison, plus de 40 000 personnes peuvent apporter leur parrainage, les élus locaux, pour la plupart. Le problème des parrainages, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui un décrochage entre les partis politiques traditionnels qui réussissent encore à faire élire des élus locaux et les élus nationaux qui, eux, font de très bons scores, y compris quand ils ont de très mauvais scores au niveau local. C'est le cas de La République En Marche, c'est le cas du Rassemblement National, c'est le cas de La France Insoumise, qui sont trois gros blocs du camp politique national, mais qui, en fait, au niveau local, n'y arrivent pas. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a une dichotomie qu'on n'arrive pas à régler.
Vous m'aviez promis d'être court, c'était presque court. Marcel Lefraisse, vraiment...
Très court, juste pour dire que fin janvier vont arriver au Conseil constitutionnel les premiers parrainages. La règle a changé en réalité, c'est-à-dire que maintenant, ce sont les maires qui les envoient au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel les examine et les publie au fur et à mesure. Ça veut dire que l'élu qui envoie son parrainage aujourd'hui,
il y a beaucoup de ces administrés qui vont penser qu'en fait, il est en train de soutenir le candidat. Et c'est pour ça qu'il y a une pression sur beaucoup d'élus qui ne veulent pas donner leur parrainage. Et ça vient compliquer la tâche de beaucoup de candidats.
Allez, Simon Le Baron, mais c'est après, c'est fini.
Juste pour dire qu'il n'y a pas de bon système. Effectivement, dans un contexte de pression et de violence croissante contre les élus, c'est problématique ce système de parrainage. Les parrainages citoyens, 150 000 citoyens par exemple, pour passer la barre, là, il y a un risque de fraude. Comment on vérifie ? C'est très, très compliqué. Et juste pour dire simplement que à chaque présidentielle et à cette époque-là à peu près, on entend la même chose, c'est la croix et la bannière pour avoir des parrainages. Aucun candidat, j'allais dire entre guillemets, significatif n'a été empêché de se présenter à cause de ce système-là.
Toujours par s'arranger. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la semaine écoulée en général, mais maintenant, comme promis, la campagne vue des réseaux sociaux. Jean Massier, ça s'appelle « Au like citoyen ». Y a-t-il des informations qui nous auraient échappé ?
Ben c'est possible, en tout cas c'est une petite phrase prononcée par Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste qui a mis le feu aux poudres. Et qu'est-ce qu'il a bien pu dire de grave, me direz-vous ? C'était dimanche dernier, il était sur le plateau de Dimanche Politique sur France 3 et voilà ce qu'il a dit.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès.
Bon, jusque-là, rien de grave. Non, mais jusque-là, voilà, rien de grave. Hein. Ça fleure bon les allées de la fête de l'UMA même. Hein. C'est une phrase assez bénigne, en fait, qui aurait pu être prononcée à peu près par n'importe quel candidat à n'importe quelle élection sans que ça fasse réagir qui que ce soit. Oui, mais seulement, voilà, l'ambiance en ce moment à gauche est, comment dire, hostile, notamment sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux. Bien qu'à la ramasse dans les sondages, la gauche n'a pas remisé au placard ses engueulades, bien au contraire. Et c'est ainsi que Fabien Roussel a eu le droit à une déferlante de tweets rageurs, l'accusant ni plus ni moins de nationalisme, suite à cette phrase. En faisant la promotion d'une gastronomie à base de viande, de vin et de fromage, le candidat du PCF chercherait à draguer un électorat d'extrême droite. Des dizaines, des centaines de tweets ulcérés, indignés, ont ainsi émaillé la gauche de Twitter dès dimanche soir. Souvent de la part de personnes sur Twitter que l'on peut sentir plutôt proche de la France insoumise ou de la gauche révolutionnaire. Un autre élément intéressant, c'est l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité de Twitter, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle les Space. C'est une fonctionnalité qui permet de créer des salons de discussion vocaux entre les utilisateurs de Twitter. Et depuis plusieurs mois, cette fonctionnalité est abondamment utilisée par des cercles militants qui créent chaque jour, chaque soir notamment, des espaces de discussion pour réagir à l'actualité. C'est extrêmement intéressant comme mécanique. Et voilà que plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies dès lundi soir pour dire tout le mal qu'ils pensent de Fabien Roussel et du Parti communiste français suite à sa sortie de la veille. Je vous ai sélectionné un extrait parmi les nombreuses heures qu'a duré cet échange à bâton rompu. C'est un tweetos qui s'appelle Grève Générale, mais je trouve qu'en fait il synthétise assez bien ce qu'ont dit beaucoup de gens. On l'écoute.
Quand il fait référence à la viande et au pinard, voilà, c'est quelque chose qui est ancien dans l'extrême droite, et j'ai même envie d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis là-dessus. Dire que les apéros saucisson pinard, c'était une mobilisation des identitaires. Il y avait aussi ensuite Riposte Laïque qui leur avait emboîté le pas, ils avaient fait deux trucs aux Champs-Élysées, etc., machin. Mais c'était vraiment un gros truc de facho, et c'était une mobilisation des fachos. Reprendre une formule qui, en fait, était une mobilisation des identitaires pendant un moment, c'est extrêmement problématique.
Allez dedans.
Oui, c'est violent.
Mais
ce que je trouve intéressant, c'est pas forcément n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est un débat doctrinal.
Bien sûr, mais enfin, d'imaginer que ça puisse être calculé de la part de Fabien Roussel pour être un ce qu'on appelle un sifflet à chien de droite, c'est totalement ridicule. Il a fait cette intervention sur France 3, mais je vous laisse poursuivre.
Beaucoup de personnes sur Twitter disaient que, selon elles, c'était calculé, précisément, calibré par Fabien Roussel qui veut faire un appel du pied.
C'est le problème de Twitter.
En grande partie, un problème de Twitter, c'est justement ce que je trouve intéressant, en fait, dans toute cette affaire, en fait, c'est les réseaux sociaux. C'est la place des réseaux sociaux dans les débats internes à la gauche. Disons que les controverses doctrinales, jusque-là, elles s'exprimaient essentiellement au sein de colloques assez restreints, de tables rondes à la fête de l'UMA, dans les colonnes de publications quand même très, très spécialistes et militantes. Mais là, maintenant, c'est devant un large public que ça se fait, en direct, sur Twitter, comme ça, par tout un tas de gens. Et ça montre aussi d'ailleurs un effacement de la place et du rôle des partis politiques qui avaient jusque-là, justement, pour rôle, entre autres, d'organiser l'engueulade, si je puis dire. On se dit les choses entre nous, et puis surtout, on détermine le tempo. Les moments où c'est bon de s'engueuler, parce qu'il faut se dire les choses, et puis les moments
mot, c'est peut-être pas la priorité là en fait les gars. D'ailleurs, beaucoup de personnes sur Twitter ont relevé aussi ça en disant là on est en train de taper sur un mec qui fait 2% dans les sondages pendant que l'extrême droite, la vraie, elle est à plus de 15%. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ces débats-là ont lieu sur les réseaux sociaux et on a aussi une rupture dans les modes de militantisme. J'en parlais d'ailleurs avec Fabien Roussel lui-même il y a 2 mois. Il me confessait, en marge d'une interview, il me confessait que lui, à titre personnel, et c'est la différence avec Jean-Luc Mélenchon, il a aucun réseau social. Il a des équipes qui s'occupent de ses réseaux sociaux, mais lui, à titre personnel, il n'a pas compte Twitter, il lit pas de messages sur Internet, parce qu'il me disait, il faut bien se rendre compte de ce que c'est pour moi, c'est des insultes, c'est des anathèmes, c'est des menaces en permanence. C'est vraiment, Twitter, pour lui, c'est un réservoir à insultes. Il voit pas l'intérêt d'ouvrir l'application, si ce n'est pour recevoir tout ça dans la figure. D'ailleurs, récemment, on a eu des menaces dont ont été victimes beaucoup de parlementaires qui nous a rappelé cette réalité du vécu de réseau social pour beaucoup de ces gens-là. Et on est donc c'est à milieu en fait de Twitter et de ces indignations quotidiennes que Fabien Roussel, comme tant d'autres en fait, va mener sa campagne, comme il le dit avec ses propres mots, simple et populaire. Voilà, pour le coup, Twitter joue le rôle ingrat des divisions, de montrer les divisions profondes à gauche, une gauche qui n'est pas seulement divisée, mais carrément à couteau tiré dans la période. C'est particulièrement dur pour elle. C'est dommage parce que tout ça aurait pu se résoudre autour d'un bon repas gastronomique.
Effectivement, et en tout cas, c'est un coup dur pour Fabien Roussel, sachant qu'il y a un autre coup dur aujourd'hui au meeting de Jean-Luc Mélenchon. On a appris que Sébastien Jumel soutenait Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est quand même un député communiste emblématique.
De Seine-Maritime, ancien, oui, maire de Dieppe, ancien maire de Dieppe et une figure du groupe communiste à l'Assemblée nationale.
C'est une vraie défection pour Fabien Roussel.
Alors juste une petite chose, oui. C'est un proche de François Ruffin. Ils militent ensemble beaucoup à l'Assemblée. Ils sont proches idéologiquement, ils sont proches amicalement. Et ça fait un moment quand même qu'avec Elsa Fossillon aussi, ils se rapprochent des Insoumis. Voilà.
Alors, on est toujours dans l'émission Un dimanche de campagne. Voilà, on va revenir maintenant sur les relations entre les politiques et la presse. On sait que cette semaine, Éric Zemmour, en présentant ses vœux à la presse, n'a pas été spécialement aimable. Il a expliqué aux journalistes que le peuple les détestait. Et on a voulu revenir, Simon Le Baron, sur justement ces relations en général, pas toujours au beau fixe, pas toujours simple.
C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que depuis longtemps, l'extrême droite a fait de la dénonciation du système médiatique un fonds de commerce. Jean-Luc Mélenchon aussi s'en prend régulièrement à la presse, supposé aux ordres. Il vient d'être condamné d'ailleurs pour injures publiques et diffamation contre les journalistes de Radio France. Mais on va voir que ce n'est pas l'apanage, et loin de là, l'apanage des extrêmes.
Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes qui...
Voilà, première archive, là on est en février 2017. C'est le Penelope Gate, vous vous en souvenez. Jean-Pierre Raffarin fait huer les journalistes en meeting de François Fillon. Et toute la campagne se fera dans ce climat de défiance, de violence même, jusqu'au soir du premier tour. Alors, je m'excuse d'avance, attention les oreilles.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Oh, la presse, on vous encule. La presse,
voilà, on va s'arrêter là, on a compris. Militants fillonistes très, très remontés. Il faut dire qu'ils ont été chauffés, on l'a entendu, par leur leader.
On remonte un petit peu le temps, 2012.
Toujours à droite. Nicolas Sarkozy en mauvaise posture avant le premier tour, très agacé qu'on lui demande s'il drague les électeurs du FN.
Quand M. Hollande et M. Mélenchon défilent ensemble, marient leur programme ensemble, ça c'est très bien. L'extrême gauche et la gauche, c'est parfait. Et moi, quand je parle aux électeurs qui se sont portés sur Mme Le Pen, ça pose un problème. C'est le terrorisme du système médiatique.
Le terrorisme du système médiatique, rien que ça. Le système qui choisirait donc ses candidats. Refrain déjà entonné en 2007 par le futur troisième homme de cette élection à l'époque, François Bayrou.
J'ai un message pour les grandes puissances médiatiques. Vous n'êtes pas les patrons de la France. Il est clair que vous avez envie que le deuxième tour oppose Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Que cela vous arrangerait pour le présent, peut-être pour l'avenir, et que vous déroulez le tapis rouge à vos deux favoris.
Voilà, Bayrou, c'est assez ironique, qui 10 ans plus tard soutiendra Emmanuel Macron, le candidat que tous les autres décriront comme le chouchou des médias.
Voilà, les médias accusés de choisir les candidats, d'étouffer les petits.
Les petits candidats, un qualificatif qui met hors de lui Jean Lassalle, député Béarnais, tiens, pour faire plaisir, oui, à Sophie Dravinel.
Merci.
Voilà, furieux face à un journaliste du Figaro. On est en 2017.
Quelle honte pour la presse écrite française. Le Figaro, Libération,
le monde. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Vous êtes voué à la disparition du journalisme à la française. Ah. C'est-à-dire à obéir à celui qui vous mettra la gamelle.
Les journalistes, la gamelle, cliché, éculé, utilisé à un moment ou à un autre par à peu près tous les partis politiques. La critique.
Et y compris les anciens journalistes.
Oui, oui.
Les ex.
Vous parlez d'Éric Zemmour.
Évidemment.
Voilà, qui a dit qu'il restait passionné par son métier, mais qu'il allait permettre à tous les journalistes de retrouver leur liberté de penser. Bon, en tout cas, la critique, l'autocritique même du journalisme, et en particulier du journalisme politique, est évidemment nécessaire, mais elle ne doit pas nous empêcher de voir la grosse ficelle quand elle est sous nos yeux.
Je voudrais bien qu'on dise un petit mot de... Il est déjà 18h56, ça passe extrêmement vite. Qu'on se projette un petit peu sur la semaine à venir, sur les temps forts qui sont à prévoir. Qu'est-ce qui sera à la une, Marcel Westfred? C'est l'Europe?
C'est l'Europe, parce que le 19, donc mercredi, le président de la République va faire son grand discours à Strasbourg, au Parlement européen. C'est le moment fort de sa présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et puis, c'est donc à partir de ce moment-là, il peut être candidat à n'importe quel moment. Il ne sera pas tout de suite parce que la crise sanitaire fait que il doit encore garder cette casquette-là. Mais à partir de ce moment-là, il aura passé, on va dire, l'étape indispensable à cette présidence. Et par ailleurs, ce discours sera suivi d'interpellations de la part des leaders de l'opposition, dont Yannick Jadot, donc candidat. Donc on va se retrouver pour la première fois dans quelque chose qui va ressembler vraiment à une entrée dans l'atmosphère de la campagne.
Avec deux meetings en même temps à Strasbourg, le même jour.
Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui seront en meeting à Strasbourg le mercredi soir, donc le soir même de cette intervention d'Emmanuel Macron au Parlement. C'est intéressant ce que disait Marcel Westfred, parce que il y a à la fois le Emmanuel Macron qui se place en surplomb, je suis président de la France et même du Conseil de l'Union Européenne, et qui mettra les deux pieds dans la campagne en répondant aux interpellations de Yannick Jadot, de Manon Aubry pour la France Insoumise, de Nicolas Bay pour le Rassemblement National, etc. Ce sera un moment politique très intéressant.
On n'a plus que 15 secondes, Jean Massier.
Le résultat du Conseil constitutionnel sur le passe vaccinal, probablement quelque chose qui peut faire l'actu, on verra.
Qui peut faire l'actu, effectivement. Normalement, c'était voté cet après-midi.
Oui, ça a été adopté. Ça a été définitivement voté, par l'Assemblée nationale.
Sophie de Ravinel, vous, en deux secondes.
Oui, alors écoutez, en deux secondes, moi je reste sur l'Europe, parce que je dis que c'est ce débat-là qui va animer toute la semaine. Et Christiane Taubira, puisqu'on parlait de son parcours tout à l'heure, eh bien c'était aussi son nom européen en 2005.
Un très grand merci, Sophie de Ravinel, Marcel Westfred, Jean Massier, Cyril Lacarrière, Simon Le Baron. La semaine prochaine, promis, Thomas Legrand sera avec nous et on l'embrasse.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous ?
Tous les Français !
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République !
Vive la liberté !
Vive l'écologie !
Et surtout, surtout,